Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je vois des soldats couverts d'armes, tout prêts à mourir et à tuer. Partout, je ne vois que des larmes. Le monde semble s'y habituer. Je vois, plus violente que la peste, la haine couvrir l'horizon. Les hommes se déchirent, se détestent. Frontières, mitrailleuses, prisons. L'amour, qui n'a plus rien à faire, vient de nous quitter à son tour. Sur terre, il était solitaire. L'amour a besoin de l'amour. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je vois des enfants sans leur mère. Je vois des parents sans enfants. Et des paysans sans leurs terres, je vois des terres sans paysans, je vois des grandes maisons vides et des grands vides dans les maisons, des gens au visage livide qui marchent sans chanter de chansons, des hommes qui essaient de sourire, des femmes au regard si peureux, des vieux qui ne savent plus rire, des jeunes qui sont déjà vieux. Sœur Anne, ne vois-tu rien là-haut ? Je vois une grande lumière qui semble venir de très loin. Je vois un enfant et sa mère. Mon Dieu, qu'ils sont loin, qu'ils sont loin. Voici qu'ils s'approchent de la terre. L'enfant a grandi, je le vois. Il vient partager nos misères. Déjà, il apporte sa croix. Bientôt, sa divine colère chassera le démon pour toujours. Bientôt, reviendra sur la terre la vie, la pitié et l'amour. Sœur Anne, quand va-t-il revenir ? Frères et sœurs, vous avez sans doute reconnu les paroles d'une chanson d'Édith Piaf, datée de 1953, mais qui n'a pas perdu grand-chose de son actualité. Et je me suis permis d'inviter Édith Piaf dans la liturgie de notre culte ce matin, et je reprendrai plusieurs textes des chansons de son répertoire. Cela peut paraître étrange, inconvenant même peut-être, car Édith Piaf n'a pas grand-chose de protestant. Elle s'est revendiquée catholique et sa piété porte cette coloration, même si cette Église lui a refusé des obsèques religieuses en considérant qu'elle était un état de péché public. Mais je l'ai invitée. En usant de cette grande liberté qu'offre l'oratoire à tous les participants à son culte, parce que elle ressemble quelque peu à cette femme traitée de pécheresse publique qui a parfumé les pieds de Jésus dont je voudrais vous parler ce matin. Cette femme dont Jésus a dit « Ses nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé ». Quand va-t-il revenir, chantait-elle ? Oui, Seigneur, viens, nous t'attendons. Nous t'attendons et parfois rien ne vient. Rien ne vient et nous nous lassons de prier, viens, Seigneur. Fais-nous découvrir que toi aussi tu attends, que toi aussi tu nous attends, que tu nous appelles, que déjà tu nous accompagnes et nous donnes ta grâce et ta paix. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour, le premier spontané qui se trouve dans le petit livret que vous avez inséré dans le recueil du psautier français.
Thank you.
C'est avec les diaconesses de Rueil que je vous invite maintenant à dire notre confiance et notre louange. Au commencement, il y avait l'amour. Et l'amour enfantait les mondes. Après le commencement, il y eut l'amour, et l'amour descendit dans les eaux, et tout est venu par lui. Chaque jour, en chaque fraction du temps, est amour. Il descend plus bas que les eaux, au fond même des enfers. Il est avec nous tous les jours. Puis, ce sera la fin des jours, et il n'y aura plus que l'amour. L'homme entier sera devenu amour, tout entier amour. Les deux seront roulés comme un grand livre. La terre ne sera plus, et la douce pitié de Dieu consolera la terre. C'est cette confiance dans l'amour de Dieu que cet amour qui nous précède et nous attend, que je vous invite à chanter avec le psaume 97 dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume. Dieu, le Seigneur, est roi. Écoutons ensemble comment l'apôtre nous présente la volonté de Dieu. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Prions. Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Mais Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, mes jours et mes nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu de mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense, et c'est moi-même. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Dans une autre chanson d'Édith Piaf, c'est quelques mots qui ont retenu mon attention. L'inscription d'une croix ancienne près d'un champ de blé merveilleux m'arrêta. Et je lis à grand-peine « Inconnu, excepté de Dieu ». Quel destin, à vrai dire, immense, repose sous ce granit bleu parmi les blés qui se balancent. Inconnu, excepté de Dieu. Est-ce un enfant ? Ou est-ce un homme pour qui la mort fit, c'est tant mieux de mettre un carré de royaume ? Inconnu, excepté de Dieu. Dieu nous connaît et nous reconnaît, même si nous sommes mal connus ou oubliés de tous. Il nous connaît, il nous aime, il accompagne notre vie, car nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Que Dieu nous mette au cœur, frères et sœurs, l'assurance de cet amour, et qui nous donne de marcher ainsi vers son royaume. Rendons grâce à Dieu pour ce don merveilleux. En ce cinquième et dernier dimanche du temps de la Passion, notre confession de foi aura la forme d'une contemplation, avec encore un texte tiré du répertoire d'Édith Piaf. Seul, dans le désert et brûlé par le soleil, seul, un homme en blanc, au loin, assiste au réveil de Jérusalem. Dans ses yeux, il y a la bonté du monde. Dans son cœur, il y a tout l'amour du monde. Dans ses mains, il y a la magie du monde. Tout l'univers est là, grâce à lui, dans ce désert. Et l'homme seul, transfiguré, va, guidé par l'oiseau blanc, vers Jérusalem. Là, il marche parmi les soldats et les gens. Dans les yeux, il y a la misère du monde. Dans les cœurs, il y a la douleur du monde. Dans leurs mains, il y a la colère du monde. Mais l'homme en blanc sourit, le regard posé sur eux. Le tambour bat pour annoncer que s'accomplit le destin de Jérusalem, car un homme est tombé sur les pierres du chemin. Dans ses yeux, il y a le pardon du monde. Dans son cœur se répand tout l'amour du monde. De ses mains a surgi la lumière du monde. C'est un soleil nouveau qui renaît dans le soleil de Jérusalem. Gloire à Dieu dans les cieux, d'éternité en éternité. Je vous propose donc ce matin de méditer une rencontre étrange, scandaleuse même, celle de Jésus avec cette femme qui lui a montré son amour d'une manière qui a choqué toute l'assistance. Les quatre évangélistes en parlent et j'évoquerai ces quatre récits. Mais je vous lis celui de l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 39 à 50. Un des pharisiens invita Jésus à manger chez lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, « Mais qui est-il celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Bienheureux qui t'aime, dans le recueil Louanges et prières, au numéro 289, les trois strophes de ce cantique. Bienheureux qui t'aime, 289. Que ta parole, agissant en nous, Seigneur, ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Les quatre évangiles parlent tous d'une femme qui est venue parfumer Jésus. Une rencontre qui a beaucoup fait parler, et d'abord ceux qui y ont assisté. Beaucoup fait couler d'encre parmi les commentateurs, en particulier pour savoir s'il s'agit du même événement raconté de façon différente, ou au contraire de deux ou trois rencontres différentes racontées de façon similaire. Voire aussi beaucoup fantasmées sur les relations féminines de Jésus. A-t-il été marié? A-t-il été amoureux? A-t-il eu des liaisons secrètes? Il faut reconnaître que le geste de la femme est pour le moins sensuel. À notre époque, écartelée entre une hypersexualisation dominante et puis toutes les réactions du type hashtag balance ton porc, cette attitude peut nourrir l'imagination de romanciers en mal d'inspiration. Du temps de Jésus, le scandale était surtout qu'un religieux ou un prophète se laisse approcher ainsi par une femme, cet être secondaire, impur, cette Ève tentatrice. Et si Jésus choque, c'est bien parce qu'il accepte de se laisser rencontrer par cette femme, justement, en tant que femme, de se laisser parfumer et essuyer par ses cheveux, d'accepter ses larmes. En commentant ce passage, le pasteur Alphonse Bayot écrit « Jésus a dédémonisé la femme et le charme féminin. Il a rendu possible et paisible des rencontres hommes-femmes. Par son attitude, il a déjoué et dénoué tous les sortilèges et les tabous attachés aux relations entre un homme et une femme. » Fin de citation. Dommage que Paul et ensuite l'Église n'aient pas continué dans cette voie. Mais j'en reviens à mon sujet, qui est cette femme? Pour Marc et Matthieu, c'est une anonyme. On ne sait rien d'elle, ni pourquoi elle a approché Jésus, si elle lui était reconnaissante de quelque chose, ou si au contraire, elle voulait lui demander quelque chose. Seulement, qu'elle avait un vase d'albâtre avec un parfum de grand prix et qu'elle le brise pour verser ce parfum sur la tête de Jésus. Pour les disciples qui étaient là, la réponse est claire. Cette femme, c'est du pognon, et du pognon dingue, foutu en l'air. Ce n'est pas qu'il soit avare, au contraire. C'est pour eux une question de générosité efficace. On aurait pu vendre ce parfum au moins 300 deniers, précise Marc, c'est-à-dire 300 fois le SMIC journalier de l'époque, ce n'est pas rien. Et donner cet argent aux pauvres. Les disciples sont des gens raisonnables. Ce royaume de Dieu que Jésus annonce, ce royaume où chacun pourra trouver le bonheur, il faut que ça se réalise, et vite, tout de suite. Pas de distraction, pas de gaspillage. Qui est cette femme? C'est sans doute une femme qui apprécie Jésus, et qui même l'apprécie mieux, qui le connaît mieux que ses disciples. Certes pas d'une manière intellectuelle, ni politique, ni religieuse, mais personnelle, dans une relation personnelle, si personnelle qu'on ne sait pas sur quoi elle repose, si personnelle qu'elle connaît Jésus, qu'elle témoigne de lui par un geste bien mieux que ne peuvent le faire les disciples à ce moment. Et Jésus le souligne. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Cette femme est ainsi placée au cœur de l'Évangile, qui n'est pas seulement un enseignement et une pratique, mais d'abord un événement, la manifestation de l'amour de Dieu pour toutes et tous, aussi bien les méchants que les bons. Un événement aussi surprenant, aussi scandaleux que le geste de la femme, si scandaleux qu'il sera scellé par la mort de Jésus sur la croix. Elle est en quelque sorte dans le tempo de l'Évangile. Et à ses disciples qui ne comprennent pas et qui la tracassent, Jésus déclare « Partout dans le monde entier, où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. » Pour eux qui se disputent pour savoir qui est le plus proche de Jésus, c'est une gifle. Eux, ils ne sont pas dans le coup. Mais pour elle, par son geste simple, a reconnu Jésus, c'est une reconnaissance. Elle est, en quelque sorte, le premier prédicateur de l'Évangile de l'amour de Dieu. On peut dire qu'elle en est, par le souvenir qui sera colporté de son geste, la première apôtre, le premier garant apostolique de cet Évangile, avant Pierre, Paul et les autres. Pour l'évangéliste Jean, le conflit se personnalise. Il ne s'agit plus d'une anonyme et d'un groupe de disciples, mais la femme, c'est Marie, la sœur de Lazare. Et celui qui lui fait le reproche de gaspillage, c'est Judas. Un Judas qui fait semblant de s'inquiéter des pauvres, mais qui en réalité, nous dit Jean, pique dans la caisse. Tout de suite après cet épisode, d'ailleurs, il sort et va vendre Jésus aux autorités. Peut-être par déception, peut-être pour provoquer Jésus à l'action, ou par simple vénalité. Il vend Jésus pour 30 deniers. Pour Judas, Jésus vaut 30 deniers. Pour la femme, il vaut au moins le prix du parfum, 300 deniers, 10 fois plus. Jean met là en scène le mystère de l'incarnation qu'il a décrit dans le prologue de son évangile. La parole, le Verbe de Dieu qui était avec Dieu dès le commencement, cette parole faite chair en Jésus, cette parole est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui mettent foi en son nom. Judas, le disciple, le familier, le proche de Jésus, ne l'a pas reconnu, ne l'a pas reçu et finalement l'a vendu. Marie s'est mise à ses pieds pour écouter sa parole. Marie a parfumé ses pieds pour dire sa reconnaissance. Et nous dit le texte, l'odeur de ce parfum a rempli la maison. Marie a parfumé ce lieu, ses vies présentes là, d'une odeur d'amour. Marie est ainsi l'autre visage de la première apôtre, celle qui répand l'évangile. L'évangéliste Luc, lui, dans le récit que je vous ai lu ce matin, est le seul qui parle d'une pécheresse, sans préciser d'ailleurs ce qu'on lui reproche. C'est une pécheresse. Et au dire de Simon le pharisien, l'hôte de Jésus, une pécheresse publique. Et Jésus devrait le savoir. En disant cela, Luc nous embarrasse. Parce qu'on pouvait penser que cette femme était une femme de bien. L'anonyme de Marc et Matthieu pouvait être une de ces femmes qui ont été les généreuses accompagnatrices du groupe des disciples et qui ont suivi Jésus jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Et Marie, la sœur de Lazare, celle qui a choisi la bonne part au pied de Jésus, c'est le prototype de la femme consacrée. Et dans l'un et l'autre cas, on pouvait bien comprendre à la fois son geste et l'accueil que Jésus lui réserve. Mais patatras, c'est une pécheresse. Je dis patatras parce qu'il s'agit bien d'une dégringolade. Simon, le notable pharisien respecté, l'hôte qui sait la loi et qui la pratique. Simon doit accepter de se faire la leçon par un petit prophète de province. Et pire, de se faire comparer à son désavantage à cette pécheresse. Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a parfumés. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle ne cesse de m'embrasser les pieds. Et sous-entendu dans la parole du créancier et des deux débiteurs, tu ne m'aimes pas beaucoup parce que tu penses que tu ne dois rien à personne et pas grand-chose à Dieu. Mais elle, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Et à notre tour, nous voilà déstabilisés. Car cette parole de Jésus est assez énigmatique et peut être entendue au moins de deux façons. Ou bien il a voulu dire que cette femme lui manifeste beaucoup d'amour parce qu'elle a été pardonnée de ses nombreux péchés. Ou bien que c'est parce qu'elle a été pardonnée de ses péchés qu'elle peut maintenant manifester de l'amour. L'amour agissant est-il la conséquence ou la cause du pardon reçu de Dieu. Le fruit de la grâce ou le motif de la grâce. On retrouve là, vous le voyez, la traditionnelle dispute entre la théologie protestante qui insiste sur le fait que tout vient de la grâce de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Et la théologie catholique qui insiste sur le fait que l'amour que Dieu place au cœur de tout homme lui permet de recevoir sa grâce. Qui est le premier ? Le pardon de Dieu ? Ou l'amour vécu ? Problème qui ressemble un peu, permettez-moi de faire cette comparaison, à celui de la poule et de l'œuf. Qui est le premier ? Est-ce la poule parce qu'elle pond l'œuf ? Ou est-ce que c'est l'œuf parce qu'il donne naissance à la poule ? Question sans réponse. Parce qu'elle tente d'établir une priorité dans quelque chose qui est un tout. De même, dans la vie de cette femme, le pardon qu'elle reçoit et l'amour qui marque sa vie, c'est un tout indissociable. Et il est vain de chercher à faire des distinctions. Alors, qui est cette femme ? Elle est ainsi l'apôtre d'un amour tout à la fois simple, radical et global. D'un amour qui ne supporte pas les mesures, d'un amour qui va au-delà de toute explication, de l'amour de Dieu attesté par le regard de Jésus sur elle, l'amour que Dieu porte sur chacun et chacune. Dans ces textes bibliques, vous l'avez entendu, il y a trois regards autour de cette femme. D'abord, il y a le regard méprisant du pharisien. C'est une pécheresse. Et sans doute que ce jugement n'était pas prononcé sans raison. Mais c'est un regard qui exclut, qui rabaisse, qui réduit l'autre aux fautes qu'il a commises et qui ne veut pas le reconnaître dans sa vérité. Parfois plus complexe, souvent plus riche. Le regard qui nourrit les caricatures que nous faisons souvent les uns des autres et qui justifie trop souvent les violences que nous exerçons les uns sur les autres. Et puis il y a le regard de Jésus. Elle a beaucoup aimé. À quoi Jésus fait-il allusion ? Nous ne le savons pas et au fond, peu importe. Ce qui est important, c'est que Jésus a su discerner dans la vie de cette femme une autre réalité que celle marquée de l'étiquette pécheresse. Une autre réalité qui devient bonne nouvelle, évangile. Savons-nous, frères et sœurs, porter sur les autres ce regard qui peut nous faire discerner en eux quelque chose de l'Évangile, quelque chose de l'amour que Dieu nous donne à recevoir et à partager. Savons-nous aussi porter sur nous-mêmes ce regard apaisé et confiant qui peut nous ouvrir à l'amour de l'autre et être ainsi apôtre de l'Évangile. Et enfin, c'est le nouveau regard que cette femme porte sur elle. Une vie nouvelle qui s'ouvre pour elle, qui la fait pleurer de bonheur. Quelqu'un ne l'a pas vue comme une pécheresse, mais l'a reconnue comme une femme qui a beaucoup aimé. Alors elle n'est plus une pécheresse. Mais elle aime, elle vit d'amour, elle manifeste son amour. Et son geste est une parole, un témoignage pour les disciples et pour Simon le pharisien et tous les invités. Et elle en est toujours l'apôtre de cet essentiel de l'Évangile, pour nous aussi, aujourd'hui. Elle peut Vivre alors cette rencontre avec Jésus, comme Piaf chantait, la rencontre d'un nouvel amour. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Amen. Seigneur, accorde-moi d'aimer. Je vous invite à chanter notre prière au numéro 343 du recueil Louanges et prières, les trois strophes de ce cantique.
Seigneur, accorde-moi d'aimer. Merci Gérard. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, et notamment au groupe d'étudiants de l'IPT de Montpellier qui sont ici présents. Merci d'être là. Avant de passer aux annonces, je voudrais remercier chaleureusement le pasteur Marcel Manoël qui nous a offert un très beau culte. Un grand, grand remerciement aussi à Aurélien Peter qui est à l'orgue. Donc, en ce qui concerne notre programme, aujourd'hui, dimanche 7 avril, à l'issue du culte, il y a la vente de gâteaux préparée par la patrouille des éclaireurs Cobra, juste devant le temple. Il y a aussi le repas paroissial Salmono, et merci à ceux qui ont pu réserver pour faciliter la préparation, mais même si vous ne vous êtes pas inscrit, vous êtes les bienvenus à ce repas paroissial. Cet après-midi à 17h, il y aura le concert par le chœur Allegretto de Paris-Plaisance, dirigé par Christian Ramamoutsou. Et ce concert nous donne l'occasion exceptionnelle d'écouter un même texte, à quelques nuances près, célébré et enrichi par la musique de quatre compositeurs de renom, Durand, Buxtehude, Vivaldi et Bach. Les solistes, ça sera Claire Bertin-Gagnol au soprano, Elena Rakova, mezzo, alto, Patrice Bigot, ténor, Olivier Welty à la basse. Et l'organiste, c'est Jung Choi. L'ensemble instrumental par Play Ad. Pour la semaine, lundi 8 avril, il y a le grec biblique pour progressant de 19h30 à 21h par Aurore Mériot à la salle Roberti au 4 rue de l'Oratoire. Mardi 9 avril, partage biblique de 14h30 à 16h par le pasteur Béatrice Cléromazir sur les figures féminines de la Bible. C'est entrée libre, salle Mono. À 20h, mardi 9 avril, concert, un siècle de polyphonie anglaise à la Chapelle Royale par les Sorbonne Scholars, dirigé par Pierre Iselin. Ce concert est au profit de l'école des chiens guides de la ville de Paris, entrée payante. Le jeudi 11 avril, il y a la répétition du chœur de l'oratoire de 19h30 à 22h avec Fabien Aubé et Alexandre Korovitch, salle Mono. Samedi 13 avril, il y a l'hébreu biblique pour les découvertes, pour ceux qui veulent donc découvrir, de 10h à 11h avec le pasteur Gilles Castelnau, salle Verne. De 10h à 17h, toujours le samedi 13 avril, le chœur, répétition du chœur de l'oratoire avec Fabien Aubé et Alexandre Korovitch, Salmono le matin et au temple l'après-midi. Pour dimanche 14 avril, vous pouvez venir de 9h30 à 10h30 pour chanter avec le chœur de l'oratoire, donc pour apprendre, ou juste chanter les chants du culte du jour. Et à 10h30, ça sera le culte des rameaux, avec le pasteur Béatrice Cléromazir et à l'orgue David Cassan. Il y aura à la garderie l'éducation biblique à 10h30. Pour l'éducation biblique, pour les enfants de l'éveil biblique, jusqu'à midi à la maison presbytérale. Et pour les enfants de l'école biblique, ils vont suivre ensuite un mini-culte avec Aurélien Péter, avec leur pique-nique jusqu'à 16h. Et à l'issue du culte, il y aura le verre de l'amitié. À 16h, donc dimanche 14 avril, il y aura un concert intitulé « Le cœur fait son cinéma ». C'est les plus belles musiques de films par le cœur Francis Poulenc dans une réalisation de Carlo Loré, entrée payante. Avant de terminer, un petit mot pour, je vais passer le micro, un représentant de nos routiers qui a quelques mots à nous dire.
Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Charles Bugner et je fais partie d'un groupe de 11 routiers qui s'apprête à réaliser son projet humanitaire au Togo cet été 2019. Nous partons avec l'association Victoire, qui s'occupe de la seule clinique au Togo pour les enfants atteints du cancer. Cela fait maintenant un an et demi que nous montons ce projet. Mais bien sûr, pour partir, nous avons besoin de financement et je vous demande de nous contacter si vous avez besoin d'un vitage de cave, de babysitting. Tant que cela finance notre projet, nous resterons motivés et nous allons aussi mettre en place une cagnotte en ligne à laquelle vous pourrez participer. Et toutes les informations nécessaires pour mieux connaître nos projets ou pour nous contacter sont sur les flyers disposés à l'entrée. Et je vous remercie de toute l'aide que vous nous avez apportée et merci pour votre écoute.
Et maintenant, c'est le moment des offrandes.
Alors, juste une petite précision pour ceux qui peut-être se sont étonnés que je ne porte pas de rabat sur la robe pastorale. Ce n'est pas que je fasse une objection de conscience ni que je propose une réforme. C'est simplement parce que je n'ai pas amené ma robe depuis Saint-Jean-du-Gard et que ce matin dans la sacristie, il y avait une robe, mais pas de rabat. Nous allons terminer notre culte par le temps de la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde, pour chacun et chacune de tes enfants. Et aujourd'hui, nous prions pour que nous puissions vivre cet amour dans le bonheur et l'honneur. Nous te demandons le bonheur, sans lequel la bénédiction demeure une formule creuse. Nous te le demandons particulièrement pour celles et ceux qui ont vécu ou qui vivent l'échec, l'angoisse, la peur des autres et la fragilité d'eux-mêmes. Nous te demandons pour nous le bonheur d'écouter et de donner. Tu nous as rendu l'honneur. Apprends-nous à nous honorer les uns les autres et à honorer chacun, chacune sur notre route. Les enfants et les adolescents, les humbles et les vieux, les malades et les handicapés du corps ou de l'esprit, les étrangers qui sont dans nos murs. Fais-nous deviner l'honneur dont notre prochain et notre lointain ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour le bonheur et l'honneur de tous les humains, ensemble avec lui, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pour notre exhortation, ce dimanche, un extrait de la règle des diaconesses. S'exercer à aimer, c'est entrer en prière, car tout en cet art nous surprend. Tout y paraît étrange et comme venu d'ailleurs. C'est le manteau qu'on laisse en plus de la tunique. C'est l'autre joue qu'on tend lorsqu'on nous fait injure. C'est le surcroît qu'on donne sans qu'il soit demandé. Déjà, nous gagne l'inquiétude de l'impossible. Quelqu'un alors nous prend sur ses épaules pour franchir cet abîme. Car à Dieu, tout est possible. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous les jours de nos vies et fortifient en nous foi, espérance et amour. Amen. Et...